C'est bon? Vous m'entendez? Juste, est-ce qu'on peut éteindre la lumière, s'il vous plaît? Ouais, nickel, merci Paul. Bonjour à tous. Enfin, bonjour, bonsoir. On ne sait pas trop. Ça fait plaisir de vous voir ce matin. Et je veux vraiment vous souhaiter la bienvenue pour ce deuxième volet de la série des 7 visages de Jésus. Pour ceux qui nous écoutent sur Internet, via notre nouveau site, tout nouveau site qui a été lancé la semaine dernière. Encore une fois, un grand merci pour ceux qui ont travaillé et développé ce site, Léo et Pyric. Donc pour ceux qui nous écouteraient, vous n'avez pas le contexte, mais là, en gros, il y a une équipe incroyable hier qui est venue et qui a obstrué toutes les vitres, toutes les fenêtres, les lumières sont éteintes. Donc nous sommes vraiment pas dans le noir total, il y a quand même un petit peu de lumière, mais nous sommes vraiment dans une pièce sombre, un peu ténébreuse. La semaine dernière, Phil a débuté la série des 7 visages de Jésus par la porte. Cette porte qui nous a invités à traverser comme une introduction à découvrir qui était Jésus. Et il nous a donné une illustration où, à un bout d'un moment où on peut passer une porte et... Oula, ça va? Les aléas du direct. Ok, donc cette porte, ben voilà, ça c'est le sombre totalement, on voit pas où on marche, on ouvre une porte et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Du coup, on peut être un petit peu perdu et tout. Et là, aujourd'hui, j'aimerais justement vous présenter ce qu'il y a derrière cette porte, en tout cas une partie de ce qu'il y a derrière cette porte. Et vous savez, ça me rappelle une petite histoire. Il y a à peu près un an et demi, avec le groupe de jeunes, on est allé faire une escape game. Tout le monde sait ce que c'est. On vous met dans une pièce, il faut chercher plein d'indices, etc., pour pouvoir en sortir. Et dans l'escape game qu'on avait fait, j'étais avec Ruben, et ils nous ont pris tous les deux, on était un groupe de 5, et tous les deux, ils nous ont mis dans une pièce séparée, où il faisait tout noir, une sorte de petit cagibi. On n'y voyait vraiment rien du tout, et on cherchait à tâtons, on savait où était la porte, et on cherchait à tâtons un peu comment en sortir, comment faire. Et on n'y voyait absolument rien. Et à ce moment-là, c'est les gens du dehors qui devaient trouver la clé pour pouvoir ouvrir le cadenas et nous faire sortir. Et c'était un soulagement, parce qu'on était justement devant cette porte, on était dans une zone sombre, ténèbre, là on n'y voyait mais rien du tout. Il y avait à peine un petit filet de lumière qui passait dessous, et du coup on n'y voyait vraiment rien. Et quand ils nous ont ouvert cette porte, et ben là il y avait de la lumière. Et donc cette lumière nous a permis de voir à nouveau ce qu'on faisait et où on allait. Et j'aimerais vous présenter aujourd'hui la seconde porte qui est la vision, la lumière. Quand Jésus dit dans Jean 8, au verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus dit « Je suis la lumière du monde. » Là, le mot « lumière », c'est en grec « phos », ça signifie « éclairé, émis par une lampe ou par un flambeau ». À l'époque, c'était des flambeaux ou des lampes à huile, à pétrole. Il n'existait pas encore la lumière, on ne branchait pas une prise et puis tout s'allumait. Donc là, c'est une notion, la notion d'éclairer, de guider, de voir ce qui nous entoure, de voir où on marche. C'est dégager la route, le chemin est dégagé, la lumière prend place. Et ce matin, j'aimerais vous présenter trois dimensions de cette lumière, trois dimensions de cette vision, de la vision de qui est Jésus, de ce guide qui nous éclaire et qui nous guide. Et pour ça, j'aimerais commencer par vous présenter une vision intemporelle. Jésus, la lumière du monde, est une vision intemporelle. Et là, dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, les 5 premiers versets, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. » Donc la parole, c'est Jésus. « Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Donc là, c'est vraiment, on s'aperçoit que cette lumière, quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », ce n'est pas juste à ce moment où il se trouve sur cette place, on verra ça un petit peu plus tard, mais Jésus était là depuis le début. En gros, la lumière du monde, cette lumière, cette vision qui vient nous éclairer, qui vient nous sauver, elle ne date pas d'hier, d'aujourd'hui ou il y a 2000 ans, elle était là avant le commencement, avant la création du monde. Elle, le plan rédempteur de Dieu, c'est la lumière dans le monde, la lumière dans les ténèbres, était déjà présente depuis le commencement. Et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Quand on parle des ténèbres, on parle du monde en règle générale. Et quand on dit « elles n'ont pas reçu », c'est « ils ne l'ont pas reconnu ». À l'époque, quand Jésus se présentait, tout le monde ne l'a pas reconnu comme étant le Messie, comme étant le sauveur du monde. Et j'aimerais vous donner un exemple de ce qu'est cette lumière qui guide, cette vision intemporelle. Et là, on va remonter quelques millénaires en arrière pendant l'Exode. Et on va regarder l'Exode 13, versets 20 à 22. Là, c'est les Israélites qui donc, tout après les sept plaies, etc., Moïse, Aaron, qui parlent au Pharaon. Le Pharaon, finalement, va les laisser sortir d'Égypte. Et là, ce passage prend place alors qu'ils partent d'Égypte. Ils n'ont pas encore traversé la mer, les eaux ne se sont pas encore séparées. Et là, il dit qu'ils partirent de Soukhot et ils campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux. Le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc là, départ d'Égypte, avant la séparation de la mer, on voit deux petites différences entre la colonne de nuée et la colonne de feu. Là, on va prendre vraiment la colonne de feu qui était pendant la nuit, pendant que c'était sombre, pendant que c'était ténébreux. Et là, il y avait toute cette colonne de feu. Imaginez-vous, je ne sais pas, comme une immense tornade, mais plein de feu. Désolé si j'ai la voix un petit peu cassée, justement, les ténèbres sont un petit peu dans mes cordes vocales. Mais la lumière va agir aussi ce matin et on va pouvoir aller au bout. Donc à ce moment-là, les Israélites sortent du pays d'Égypte. Mais ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas super bien. On marche tranquille et puis on va faire un petit tour dans le désert avant de rentrer dans notre pays. C'est pas du tout ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les Égyptiens vont aller les poursuivre pour les arrêter parce que Pharaon, au final, il veut pas trop les laisser partir. Donc imaginez un petit peu l'état d'esprit des Israélites. Est-ce qu'ils ont peur ? Parce qu'il y a des chars, il y a des guerriers derrière. C'est vraiment la peur, la panique. Ils ne savent pas à quoi s'attendre. Peut-être perplexes. Okay, notre Dieu, le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, qui nous dit qu'il va nous faire sortir d'Égypte, de l'esclavage, on le croit, on veut le suivre, mais au final, on va se faire tuer, on va se faire massacrer. Donc ils sont peut-être un petit peu perplexes aussi là-dedans. Mais il y a une chose qui est sûre. C'est qu'ils pouvaient voir la présence de Dieu devant eux. Ils avaient cette colonne de nuée, ils avaient cette colonne de feu pendant la nuit qui les guidait. Et juste cette présence, je ne sais pas si ça peut nous permettre à nous d'avoir vraiment, d'être tout le temps en paix dans nos situations. À ce moment-là, je ne sais pas si tous les Israélites avaient la paix dans leur situation, mais en tout cas, il y a une chose qui était claire, c'est qu'ils voyaient la présence de Dieu qui les guidait, qui guidait leurs pas. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette émission, ça s'appelle Man vs Wild. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici, avec Bear Grylls, non ? Un aventurier qui va partout dans le monde, dans les endroits les pires reculés, etc. Et je me souviens d'une fois, c'était assez marquant, ça m'a tout de suite fait penser à cette image de ténèbres et de lumière. En fait, il se retrouve dans une grotte, il perd son flambeau qui s'éteint, il n'y a plus rien, il y a de l'eau, il ne voit rien. Et au bout d'un moment... Alors qu'il ne savait pas du tout comment sortir, il ne pouvait pas revenir en arrière, il voit une lumière au bout de la grotte. Et qu'est-ce qu'il fait ? Ben, la première chose, on va vers la lumière. Dans les ténèbres, il n'était pas bien, il ne voyait pas où il était, il ne savait pas comment s'en sortir, et il voit la lumière. Et au final, c'était une issue, c'était l'issue de secours de cette grotte, l'issue. La lumière l'a guidé en dehors des ténèbres. Et c'est ce que Dieu a fait avec les Israélites. Cette colonne de feu les a guidés en dehors des ténèbres, en dehors de l'esclavage en Égypte. Et après, bien sûr, il y a eu tous ces miracles encore que Dieu a opérés en ouvrant la mer, comme Pasteur Phil nous l'a rappelé, comme une porte à travers la mer pour quitter ces ténèbres, cette oppression et ce joug d'esclavage. Jésus est cette lumière qui te guide au-delà des ténèbres de ta grotte. Et aujourd'hui, c'est notre mandat à nous en tant que chrétiens. Dans un autre passage, Jésus va dire « Vous êtes la lumière du monde ». Parce que Jésus se sert de nous, veut se servir de nous, chrétiens, ayant déjà accepté Jésus comme notre sauveur, comme notre lumière. C'est nous qui devons prendre la place de cette lumière au bout du tunnel, au bout de la grotte. Et ça nous amène au deuxième point, qui est la vision, une vision actuelle. Dans Jean 8, verset 12, je le répète, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » À ce moment-là, quand Jésus dit cette phrase, il ne la dit pas n'importe où, à n'importe qui, n'importe quand. Quand Jésus dit qu'il est la lumière du monde, il n'y a aucun hasard. Au fait, il le dit pendant une fête qui se passe, une fête juive. C'est la fête des tabernacles. Et cette fête, c'est une fête qui vient célébrer pour se rappeler justement de cette colonne de feu qui les a guidés pendant la sortie d'Égypte. Et puis en mémoire de tous de ces 40 ans où Dieu était présent, visiblement, tangiblement, au milieu de son peuple dans le désert. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, ils sont sur une place et il y a à peu près... Ils disent quatre candélabres. Qu'est-ce qu'un candélabre ? Un candélabre, c'est un grand chandelier avec plusieurs branches. Et ils allumaient, ils mettaient le feu justement pour que ces chandeliers puissent éclairer la nuit. Et en fait, à ce moment-là, personne ne peut ignorer la lumière qui sort de ces candélabres, de ces chandeliers. Tout le monde le voit sur la place, dans la ville, c'est très visible. Donc Jésus, il parle de quelque chose que les Juifs connaissent. Que les Juifs savent, c'était enseigné, ça fait partie de leur patrimoine, ça fait partie de ce qu'ils apprenaient, comme nous on apprendrait l'histoire de la France ou de la Suisse, etc. Eux apprenaient l'histoire de leur peuple, du peuple d'Israël. Donc ils savaient à qui ils parlaient. Deuxième chose qui se passe, Jésus parle comme ça devant toute une foule. Il n'est pas dans une synagogue à ce moment-là, il n'est pas dans une église. Donc... C'est pas forcément pour nous l'endroit propice pour parler. Mais justement, au premier siècle, c'était quelque chose de très courant. Souvent, il y avait des gens qui allaient se réunir sur des places et qui allaient parler, qui allaient lancer un sujet. Ça aurait pu être, comme Jésus le faisait, la lumière du monde. Et puis, des gens venaient, puis après débattaient. D'ailleurs, on voit dans les évangiles, souvent, régulièrement, il y a Jésus qui vient parler, et donc des pharisiens, des scribes qui essayent de débattre avec lui. Et ça, c'était très courant chez eux, ça choquait personne. Les gens se mettaient à côté, c'était comme une joute verbale, un peu comme on verrait peut-être, je ne sais pas si vous voyez les rappeurs là qui quelquefois ils se clashent un petit peu, il y en a un qui parle, l'autre qui réplique, et bien là c'était un petit peu la même chose, et puis c'était un petit peu pour déterminer qui était le plus sage, qui était le plus intelligent, etc. Donc quand ceci se passait, les gens autour s'arrêtaient et juste écoutaient, c'était normal. Maintenant une vision actuelle. Aujourd'hui, je me lance le défi de me mettre sur la plus grande des places, de monter sur un tonneau et de commencer à prêcher la lumière de la vie. Qu'est-ce que les gens vont penser autour de moi ? Il est fou. Qu'est-ce qu'il a bu ? Il est drogué, il est... Peu importe, mais je ne vais pas renvoyer une bonne image. Et du coup, je ne vais pas forcément renvoyer une bonne image de Jésus. Et je parle vraiment là, dans notre contexte, à nous, socioculturels, européens, occidentaux. Dans d'autres pays, ça peut se faire, il n'y a aucun souci. Et je ne dis pas non plus que ceux qui le font sont totalement à côté de la plaque, c'est Dieu qui dirige toute chose. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, dans notre société, les gens ne s'attendent pas et ne veulent pas forcément voir des gens qui montent sur des tonneaux pour haranguer la foule de loin comme ça. Donc nous devons avoir ce côté de... pertinence, ce côté actuel, s'adresser aux personnes qui nous entourent de la bonne façon pour pouvoir toucher les gens. Jésus, un peu plus loin, va rappeler dans Jean 12, au verset 35, « La lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez tant que vous avez la lumière pour ne pas vous laisser surprendre par les ténèbres, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. » Là, Jésus, il est juste en train de nous dire à nous, aujourd'hui, ici, que ben, c'est pas pour l'éternité. Cette lumière, elle sera nécessaire que le temps que nous passons sur cette terre. Mais une fois que tout sera fini, ce sera trop tard. Plus moyen de pouvoir montrer le chemin, plus moyen de pouvoir éclairer, de pouvoir illuminer, que les gens puissent avoir cette vision du chemin à prendre pour rejoindre Jésus. Le temps est compté. Les gens ne savent pas où ils marchent. Dans les ténèbres, on ne voit rien. Et c'est à nous, chrétiens, aujourd'hui, de montrer le chemin de Jésus. Le but, ce n'est pas de forcer, on ne doit pas taper sur les gens à coups de Bible, ce n'est pas ça. Mais c'est le témoignage. Et j'aimerais juste vous présenter ce qui est le témoignage, à mon sens, de ce que devrait être un chrétien, de ce que devrait être la lumière aujourd'hui. La première chose, c'est que le cœur de Jésus représente la lumière du monde, la lumière que le monde a besoin. Et pour propager cette lumière, tu dois connaître le cœur de Jésus pour les gens. Pour pouvoir aimer les gens, tu dois connaître, tu dois savoir ce que Jésus éprouve, ressent pour les gens, pour l'humanité. Et ça, c'est facile. Il y a juste à passer un petit peu de temps dans la Bible, un peu de temps en prière, et vous allez vite vous rendre compte que le cœur de Jésus, ici, il a saigné, il a souffert, il a été brisé, il a été meurtri, il a pleuré pour chacun d'entre nous, pour chaque personne. Il a été brisé. C'est ça le cœur de Jésus. Un cœur brisé et un cœur meurtri pour chaque personne qui marche dans les ténèbres. Et à l'inverse, un cœur réjoui, un cœur illuminé, un cœur plein de joie pour toutes les personnes qui reviennent dans la lumière. Aujourd'hui, le monde a connu plusieurs églises. Et je veux vraiment parler de l'église, je ne veux pas parler de religion. Je ne m'occupe pas de ce que les autres font, mais je veux d'abord balayer devant ma porte avant d'aller balayer devant la porte des gens. Le monde aujourd'hui a connu une église qui a fait la guerre. On peut penser aux croisades, à d'autres choses. Même de nos jours encore, combien de pays peuvent aller faire la guerre au nom de Dieu ? Ok ? Mon but, ce n'est pas de juger, de dénoncer ou quoi, mais c'est vraiment là, on parle de faits, on parle de concret, de réel. Il y a juste à regarder les actualités et on voit totalement de quoi on peut parler. Il y a aussi l'église qui escroque les gens. On peut penser à l'église catholique d'il y a quelques siècles qui vendait des places pour le paradis. C'est pas mal. D'ailleurs, si vous voulez, il me reste encore un petit stock à la sortie, venez me voir, je vous ferai un prix. Une église qui condamne, une église qui juge, une église qui peut tuer parce qu'on ne pense pas la même chose, une église intolérante, une église traditionnaliste. Les pharisiens ne sont pas si loin que ça, il y en a encore aujourd'hui. Et le but, c'est pas non plus de tout rejeter et d'appeler le mal bien et le bien mal. Mais il y a quand même un certain principe que parfois, en tant qu'être humain, et je m'inclus vraiment dans tout ça, on oublie, c'est l'amour. C'est l'amour pour chacun, l'amour pour le prochain. Et c'est ça cette lumière, c'est ça cette vision du cœur de Jésus, c'est l'amour. L'amour de Dieu, mais l'amour du prochain, l'amour des gens. Et pour moi, aujourd'hui, le mandat de l'Église, c'est de prendre soin des gens. Comment montrer aux gens aujourd'hui dans notre société individualiste, égoïste, égocentrique, que Jésus les aime ? Ben, c'est tout simplement de leur montrer qu'on les aime. C'est tout simplement de leur montrer qu'on ne leur demande rien, mais nous, on veut leur donner. On ne leur demande pas de prendre soin de nous, mais nous, on veut prendre soin d'eux. C'est ça, aujourd'hui. Et il y a plein de choses dans la relation d'aide, les projets sociaux. On est déjà engagé à la banque alimentaire. D'ailleurs, il me semble que ce matin, nous avons des gens de l'Église qui sont engagés dans la banque alimentaire du Resto du Cœur. Nous allons avoir dans 2 semaines aussi, si ma mémoire est bonne, les banques alimentaires du Pays d'Aix. Et c'est important pour nous de montrer que l'Église aussi veut prendre soin des gens. Ça peut être plein d'autres choses. Pourquoi pas ? Ça peut être des banques de vêtements, récupérer des vêtements, des vieux jouets, les redistribuer aux enfants qui n'ont pas de quoi avoir des jouets à Noël, des gens qui n'ont pas les moyens de s'habiller, de pouvoir avoir un point où ils peuvent venir chercher des habits, des vêtements à la bonne taille, qui sont propres et qui ne sont pas usés. Il y a juste à regarder autour de nous, aller se balader dans Genève. Il n'y a même pas besoin d'aller jusque dans Genève. Aller ne serait-ce que devant certains magasins du pays Jex, vous allez voir des gens qui ont besoin d'aide, des gens qui souffrent, des gens qui ont besoin qu'on se lève pour prendre soin d'eux. Et sans parler, là on parle vraiment des gens qui ont un vrai besoin, mais ce besoin spirituel, cette quête d'identité spirituelle que tout le monde peut avoir et qui trouve un sens que lorsque l'on rencontre la vraie identité. Jésus est l'identité. Jésus est la lumière, c'est la lumière qui vient faire ressortir notre identité spirituelle. Nous sommes morts spirituellement, Jésus vient ressusciter notre spirituel. Et cette lumière, elle peut avoir plusieurs intensités. Mais l'intensité de la lumière va dépendre de l'amour manifesté par l'Église envers son prochain. Je vais répéter. L'intensité de la lumière va dépendre de l'amour manifesté par l'Église envers son prochain. Tout simplement pourquoi ? Parce que derrière, il y a une vision éternelle. Une vision éternelle. Dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. « Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » Car vous, qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Cette identité, Dieu fait de nous son peuple, ses fils, ses filles, les frères et sœurs de Jésus qui prenons part à cet héritage que nous allons avoir dans le royaume pour l'éternité. Et là, il y a un mot qui ressort, c'est la grâce. Et cette grâce, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous ne devons rien faire pour recevoir la vie éternelle. À part un choix, juste « Ok Jésus, je t'accepte ». La seule chose que nous ayons à faire, c'est d'accepter Jésus comme notre sauveur. Cette grâce est imméritée, cette grâce est gratuite, totalement gratuite. Pas d'or, pas d'argent, pas de diamant, même les plus grandes richesses du monde, rien ne peut acheter la grâce de Dieu, cette grâce qui nous rachète, cette grâce qui fait de nous ses enfants, son peuple. Ça ne fait pas de nous des gens meilleurs, des gens au-dessus de l'élite du monde, pas du tout. Ça fait juste de nous des pécheurs, des gens qui étaient perdus et qui ont vu la lumière. Et c'est par la grâce de Jésus qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes ses enfants, pas par le mérite, nous ne sommes pas mieux que les autres. C'est la lumière du monde. Et nous devons représenter cette lumière. Plus loin, dans Ésaïe 60, au verset 19 et 20, « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire, ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. » Quand on parle de grâce, on ne parle pas juste de reconnaître Jésus sur terre et puis de pouvoir prier quelqu'un quand ça ne va pas, de pouvoir juste lire un livre. Ça va bien au-delà de ça. Il y a un but, c'est une vision éternelle. Ce but est éternel. Tout ce que aujourd'hui nous pouvons faire en tant qu'Église en apportant la lumière dehors, en fait, ça résonne dans l'éternité. C'est pas juste aujourd'hui, je vais donner un vêtement à quelqu'un, il va pouvoir avoir chaud. Mais si cette personne, parce que je lui ai manifesté de l'amour, reconnaît Jésus comme son sauveur, alors une personne qui sera avec nous dans l'éternité, une personne en plus dans l'éternité avec nous, juste pour une personne, ça vaut tous les sacrifices qu'on peut faire. Juste une personne sauvée. Il n'y aura plus de lune, plus de soleil. Jésus, la lumière, c'est lui qui va nous éclairer. On n'aura plus besoin d'avoir ce contact avec le soleil pour se sentir bien. On aura juste la présence de Jésus. Et juste cette présence nous éclairera, nous illuminera. On saura en tout temps où on est, ce qu'on fera et où on marchera. Il n'y aura plus de deuil, plus plus de deuil, plus de souffrance, plus de pleurs, plus de cris, plus de pauvreté, plus d'addiction, plus rien du tout, plus de maladie. Nous serons dans une éternité de bonheur à jamais. Mais par contre, à l'inverse, il y a une éternité de ténèbres. Il n'y a pas juste une éternité, il y a une éternité. Bonheur, ténèbres. Et c'est ça pour ce à quoi nous sommes appelés. C'est justement éviter que cette personne, au-delà d'avoir froid, faim ou soif sur cette terre, évite de souffrir pour l'éternité. C'est une réalité, c'est juste une réalité. Si vous avez accepté Jésus, si vous reconnaissez Jésus, alors vous devez être conscient qu'il y a un enfer et un paradis, une éternité de bonheur et une éternité de souffrance. Et c'est ce à quoi nous voulons aspirer, amener, guider un maximum de personnes vers une éternité de bonheur. Nous ne voulons pas la souffrance des gens. Encore une fois, l'amour de Jésus, c'est l'amour de Jésus. C'est une vision salvatrice présente depuis le début des temps et qui dure jusque dans l'éternité. Imagine maintenant le plus beau jour de ta vie. Vraiment celui que tu placerais en top one des plus beaux jours, peu importe lequel c'est. Et imagine que ce jour-là, c'est rien comparé à ce que tu vivras dans l'éternité, au paradis, auprès de Dieu, dans la lumière éternelle. Et là, je vais vous lire, pour finir, un dernier passage dans Michée. Ne te réjouis pas, mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Voilà ce que Jésus a fait à la croix. Et là, peut-être que tu es assis dans tes ténèbres et que tu as besoin de lumière. Eh bien, la lumière, elle est là. Et voilà, tu sors des ténèbres à la lumière. Merci, Jay. C'est ça. Peut-être que tu es assis dans tes ténèbres. Peut-être que là, tu vois pas la lumière de Jésus. Peut-être que tu es assis dans tes ténèbres et que tu as peur. Peut-être que tu as froid. Peut-être que tu souffres. Peut-être que tu es assis dans tes ténèbres et tu vois pas la lumière. Peut-être que tu es assis dans tes ténèbres et tu aimerais en sortir. Peut-être que ce matin, c'est le matin où la lumière t'appelle. Peut-être que ce matin, c'est le matin où tu veux lever les mains et dire « Seigneur Jésus, je veux sortir de mes ténèbres. Seigneur Jésus, je veux, ramène-moi à la lumière, guide-moi jusqu'à cette éternité. Fais-moi ressentir ton amour. Donne-moi cet amour. Je veux devenir ton frère, ta sœur. Je veux devenir un enfant de Dieu. Je veux faire partie de ce peuple. » Peut-être que tu es assis dans les ténèbres et plein de gens se moquent. Peut-être même qu'une fois que tu seras à la lumière, des gens vont se moquer de toi. Mais cette lumière est nécessaire dans notre vie. Cette lumière est rédemptrice. Cette lumière donne la vie. Cette lumière est salvatrice. C'est un espoir, c'est un salut. Juste le salut, juste l'espoir de la lumière. Cette vision d'espoir pour l'humanité. Cette vision d'espoir pour la personne qui souffre. C'est juste ça. Et là, j'aimerais juste que on puisse rester où on est et juste tous fermer les yeux. Ne regardez pas la personne à côté. Là, c'est vraiment un moment entre Dieu et vous. Et peut-être que ce matin, tu as l'impression d'être assis dans ton coffre de ténèbres, derrière ton paravent de ténèbres. Peut-être que tu n'as juste plus goût de vivre ce que tu es en train de vivre. T'en as juste marre, t'es juste fatigué, t'es juste découragé, déprimé, t'en peux plus. Et là, tu vois cette lumière. Tu vois cette lumière t'appeler. Peut-être que là, Jésus, maintenant, est en train d'éclairer ton cœur. Peut-être que Jésus, maintenant, est en train de te dire, viens à ma lumière, il y a autre chose. Il y a autre chose derrière. Et juste ce matin, tout simplement, si tu veux recevoir cette lumière, si tu veux sortir de ton coffre de ténèbres, juste lève la main. C'est entre toi et Dieu, uniquement entre toi et Dieu. Yes, j'aimerais... juste finir par un mot de prière. Ouais, Seigneur Jésus, on veut vraiment te remercier pour la lumière que tu es. Je veux te remercier pour ce sacrifice, Seigneur, cette vision d'espoir, cette vision de rédemption que tu donnes à l'humanité. Seigneur Jésus, je veux vraiment te louer et te remercier pour toutes ces personnes qui décident de passer des ténèbres à la lumière. Je veux te remettre toute personne qui fait ce choix devant toi, Seigneur Jésus, et je te prie de venir maintenant éclairer son cœur. Je te prie maintenant de déverser ton amour, ta paix, Seigneur, et ta joie dans chaque cœur qui se tourne vers toi. Je te prie, Seigneur, pour un peuple, une église remplie d'amour et de compassion, remplie de ton cœur, Seigneur, qui se tourne vers les gens. Je te prie pour une église, Seigneur, qui prenne soin des autres. Je te prie, Seigneur, pour que l'amour et l'unité règnent dans ton église et qu'elle puisse se propager au dehors, Seigneur. Je te prie pour une église qui puisse illuminer les ténèbres, qui puisse guider chaque personne qui veut te découvrir vers toi. Tout simplement, Seigneur Jésus. En ton nom, amen.